Donc, travaillant sur les fameux Dogons du Mali, je vais vous parler ici de l'image de leur chef politico-religieux, les Ogons. Je compte examiner l'évolution du regard occidental porté sur ces dignitaires à travers les photographies prises par les Occidentaux ou publiées à leur destination, à leur intention. Alors, le Ogon est présenté au début du XXe siècle comme une figure du pouvoir. Puis, petit à petit, il devient, aux yeux des Occidentaux et dans leur iconographie, l'incarnation du grand sage africain ou du guide spirituel, dépositaire d'un savoir ésotérique. Dans le cadre de ce colloque, mon analyse portera autant sur les raisons d'une telle évolution dans le regard que sur les procédés photographiques utilisés pour représenter successivement le pouvoir du Ogon, puis sa présumée sagesse. Alors, avant de passer à l'étude iconographique, il est nécessaire de présenter très brièvement ce chef d'Ogon dans une perspective à la fois anthropologique et historique. Bon, tous les Ogons relèvent de la figure bien connue du roi sacré au moment de leur intronisation, donc, leur pouvoir est sacralisé et va faire corps avec leur personne en étant totalement indépendant de leurs connaissances, de leur habileté oratoire, etc. Leur pouvoir d'origine divine est par ailleurs légitimé par leur position de doyen ou par leur élection. Car il existe deux types de Ogons différents selon les régions, voire à l'intérieur d'une même région d'Ogon. L'un occupe cette fonction en tant qu'aîné du groupe concerné, toute famille confondue, tandis que l'autre, qu'on appelle le Wadiou, est élu vers l'âge de 50 ans, uniquement en étant choisi uniquement dans le groupe conquérant qui détient le pouvoir politique. Ces deux Ogons commandent en tant que chef sacré, commandent aussi bien les hommes que les éléments, et à l'époque précoloniale, ils avaient d'importants pouvoirs de justice et de police. Cela dit, le Ogon élu, le Wadiou, avait une puissance politique beaucoup plus importante que le Ogon doyen, ne serait-ce que parce qu'il avait à sa disposition un grand nombre de délégués qui agissaient en son nom sous ses ordres, et parce qu'il exerçait son autorité dans le cadre de petites chefferies englobant plusieurs villages. Alors, dès le début de la conquête, la conquête coloniale du pays d'Ogon en 1893, les administrateurs coloniaux sont les premiers à reconnaître la puissance politique des Ogowadjou, des Ogons élus, et à s'en inquiéter, parce que leur pouvoir leur paraissait faire concurrence et donc affaiblir l'autorité des commandements de cercle et localement l'autorité des chefs de canton imposés par les Français. Donc, jusqu'au début des années 1920, l'administration coloniale accuse ces Ogowadjou d'esclavagisme et d'incitation à la révolte ou à l'insoumission. Et certains de ces... tous sont étroitement surveillés, espionnés, hein, ça apparaît dans les rapports politiques, et certains d'entre eux vont être arrêtés et déportés. C'est une histoire très peu connue. Alors, une telle politique va rapidement produire des effets escomptés. Les Ogons vont perdre très rapidement la plupart de leurs prérogatives politiques, judiciaires en particulier, et ceux qui sont élus, les Ogowadjou, vont disparaître progressivement, à quelques exceptions près, à partir des années 30, tout simplement parce qu'on ne les remplacera pas après leur décès. À quoi bon, en effet, nommer un chef politique qui n'a plus de pouvoir politique et qui est en plus harcelé par l'administration coloniale. Alors, les administrateurs coloniaux ont beaucoup écrit sur les Ogons, notamment leurs rapports politiques, mais ils ont peu utilisé leur image. Si bien qu'avant l'arrivée de Griot dans le pays d'Ogon, je ne connais que deux images publiées de Ogowadjou. L'une a été publiée par Desplagnes en 1907 et l'autre par Seabrook en en avril 1931. Grégoire arrivant en octobre 1931. Alors, le lieutenant Desplagnes est en 1904 le chef d'une mission anthropologique et ethnographique au Soudan français, et il parcourt notamment une partie du pays Dogon. Il s'arrête en particulier à Bankass, en plaine, où il prend en photographie le Ogowadju de cette petite chefferie Dion qui regroupe plusieurs villages. Alors, il publie cette photo dans son ouvrage le plateau central nigérien, dans la section consacrée au Ogon, qu'il qualifie de grand chef. On le voit sur le titre en haut de la page, ou qu'il qualifie aussi dans le texte de magistrat religieux. Parce que, effectivement, Desplagnes insiste avant tout sur le pouvoir politico-religieux du Ogon, et de toute évidence, c'est cette image de chef qu'il veut imposer à travers sa photo, à travers cette photo. Grâce à un plan large et à une prise de vue frontale, le Ogon pose debout sur son estrade face à son imposante maison de fonction. En plus, il regarde l'objectif, la tête haute, droite, et il porte la plupart de ses, enfin, en tout cas, certains attributs de son pouvoir, sa canne, et même s'il est difficile de le voir sur une photographie noir et blanc qui est en plus de mauvaise qualité, son bonnet rouge. Et il porte aussi des habits de cérémonie, ce qui lui donne une certaine majesté. Alors, l'autre photo est donc publiée par William Seabrook. William Seabrook, c'est un écrivain voyageur américain qui, dans les années fin des années 20, début des années 30, est assez connu en France et apprécié des surréalistes en raison de leur fascination commune pour l'exotisme et la magie. Sur les conseils d'ailleurs de l'écrivain Paul Morand, il va partir en pays d'Ogon, à Sanga, puis de Sanga se rendre dans un village qui est proche, à Arou, pour y rencontrer le Ogon d'Arou, qui a l'autorité sur l'ensemble des villages et des familles Arou. Il va consacrer tout le dernier chapitre de son livre, qui est en français, dont le titre en français c'est Les secrets de la jungle, il va consacrer tout un chapitre à ce Ogon d'Arou, et la dernière photo aussi de son livre à ce Ogon d'Arou. Et alors, lui, dans son texte, il présente ce Ogon à la fois comme un sage et comme un chef sacré, riche et vénéré, habitant, je le cite, un palais épiscopal. Autrement dit, il le compare implicitement à un pape, ou en tout cas un chef religieux. Et par son cadrage, la photographie qu'il publie tend à imposer cette image de pape d'Ogon, entre guillemets, en conjuguant à la fois la figure du sage ou du saint homme et celle du chef sacré, majestueux et souverain. Parce qu'il choisit en effet un plan intermédiaire, ni trop large, ni trop serré, avec un Ogon assis, pris de trois quarts face, de façon à ce qu'il ne regarde pas l'objectif, contrairement à l'exemple précédent. Alors, j'ajoute, parce que ça a un intérêt pour la suite, que Seabrook met en scène dans son chapitre son entrevue avec le Ogon d'Arou sous une forme visiblement romancée, en la transformant en enseignement religieux et ésotérique dispensé à son bénéfice. Et donc, à travers aussi bien le récit que la photographie qui est publiée par cet aventurier, se dessine déjà la vision occidentale actuelle du Ogon, qui va être assimilée par les touristes à un grand sage, à un grand initié et à un guide spirituel. Il serait donc faux de croire que cette vision dérive directement ou uniquement des travaux de Griot, et notamment de son livre Dieu d'eau, où il met en scène son initiation avec un vieillard au Gotemeyi, présenté comme un sage et comme un philosophe. D'une certaine manière, Seabrook l'a précédé. Alors, bien sûr, Dieu d'eau en 1948 va contribuer à façonner l'image occidentale, l'imagerie occidentale d'une société d'Ogon harmonieuse et apolitique, sans conflit et sans histoire, organisée en fonction de ses mythes, et gouvernée par des sages ou par des philosophes, et non par des chefs. Pourtant, pour Griol ou pour Dieterlin, le Ogon d'Arou est bien un chef, et pas du tout un sage. Et ça se voit très bien dans le choix des photographies. Dans le livre de Griot, les Vietnamiens, paru en 1965, après la mort de Griot, c'est le fameux Renard Pâle, la seule photographie due au monde d'Arou est celle-ci, publiée dans ce livre. Donc. Et cette photographie impose clairement l'image d'un chef ou d'un souverain, grâce encore une fois à un plan large, englobant l'ensemble de sa maison, qui est relativement imposante, et aussi grâce à une prise de vue en contre-plongée, centrée sur le rond qui est assis sur son estrade et qui semble ainsi dominer, d'autant plus qu'il y a un personnage qui se situe clairement en contrebas. En plus, ce Hogon, comme dans la première photo, fixe du regard l'objectif, ne détourne pas le regard. Il a encore une fois aussi une partie des attributs de son pouvoir, c'est-à-dire notamment ses bottes en cuir rouge, son bonnet, même s'il est encore difficile de percevoir, et il porte aussi une couverture d'apparat sur son épaule. Donc ça donne aussi une impression de domination et de majesté. Bref, cette photo rappelle davantage la photographie de Desplanes, la photographie du Hogon de Bancas par Desplanes, que la photographie de ce même Hogon d'Arou par Sibonc. À noter que ce cliché n'est pas Griol. Jeanne Desternin l'a emprunté à la femme d'un commandant de cercle. Et ce n'est peut-être pas étonnant, parce que finalement, les ethnologues et les administrateurs coloniaux sont finalement les seuls à partager la même vision du Hogon en tant que chef, alors que les voyageurs et les touristes vont le voir comme un guide et comme un grand sage, un grand initié. Alors, aujourd'hui encore, hein, anthropologues et grand public ont une vision quasiment opposée du Hogon. Nadine Manono, qui est ethnologue et cinéaste, qui est membre du CEMAF, va illustrer l'un de ses articles qui est paru en 2003 avec une photographie du Hogon d'Arou. Enfin, c'est plus le même, c'est un successeur de celui qu'on a vu. Mais il pose, c'est au moment de son intronisation, et là encore, elle donne de ce Hogon l'image d'un chef sacré, commandant aussi bien aux hommes qui l'entourent qu'aux céréales représentées ici à travers la tige de myrrhe. Là encore, il ne porte pas de la totalité, puisqu'il est dans sa période d'intronisation, mais une partie déjà des attributs de sa fonction, notamment ses bottes en cuir rouge. Dans une autre photographie qui est parue dans un livre publié à la fois par Nadine Wanono et par un photographe, Michel Renaudot, on a ce même Hogon, mais après, quelques années après son intronisation, ce même Hogon qui pose devant sa maison de fonction. On a toujours un cadre très large englobant la maison de fonction. Là, il n'est pas en haut, mais il est debout, faisant face à l'objectif, le regard vers l'objectif, ce qui lui donne plutôt des allures de jeune chef dynamique et prospère, voire moderne, contrairement à. Mais on est toujours dans l'image du chef. Alors, on peut supposer. C'est un cliché de Renaudot, du photographe, mais on peut supposer que Nadine Manono a pesé sur le choix de ce cliché. Parce que 6 ans plus tard, le même photographe Renaudot publie un autre livre sur les Hogons, parce que c'est un bon filon, comme chacun sait, mais en se passant cette fois de la collaboration de Dany Monono, et il impose du coup une toute autre image du Hogon, une image qui est celle-là complètement fausse, à savoir l'image du grand initié dépositaire d'un savoir mythologique ou ésotérique qu'il est chargé de transmettre à ses interlocuteurs. D'ailleurs, la légende est parfaitement explicite, hein, je cite, « Les paroles de la connaissance sont données par le Hogon d'Arou à son interprète. » Dans ce cliché, évidemment, tous les bâtiments, les objets, les postures du pouvoir ont disparu, pour laisser la place à une vague mise en scène de cette soi-disant initiation ou transmission de la connaissance, grâce à un plan resserré sur le Hogon et son interlocuteur supposé, qui, par ailleurs, sont assis, les yeux fermés, la tête penchée soit en bas, soit sur le côté, dans une position qui évoque bien sûr davantage la sagesse que l'autorité. Alors, passons du Hogon Daru au Hogon de Nombori, parce que Nombori est finalement le seul autre village d'Hogon où cette fonction de Hogon Wadyu a survécu à la colonisation. Alors, moi, justement, à propos du Hogon Daru, je me suis intéressé en tant qu'anthropologue à la dimension politique des rites d'investiture du dernier Hogon de Nombori, qui a été intronisé en 1989, notamment à la dimension politique aussi des récits qui sont énoncés la veille de son intronisation. Tout cela pour dire, je ne vais pas détailler, oui, ça donnait lieu à un livre, un petit coup de pub, le pouvoir en miettes. Et tout ça pour dire qu'une telle approche me conduit bien sûr à considérer le Hogon de Nombori comme une figure du pouvoir et du pouvoir politique en particulier. Et cela transparaît, je crois, à travers la seule photographie qui est publiée dans ce livre, qui est celle-ci, où j'ai choisi une photographie qui correspond au moment précis où le Hogon s'assoit pour la première fois sur son estrade avec l'ensemble de ses attributs de pouvoir et de fonction, en l'occurrence ses bottes rouges, son bonnet, sa canne qui est derrière lui, mais aussi son pantalon et sa tunique en cuir rouge et sa cloche. Et à ses pieds, les villageois qui défilent devant lui ont commencé à déposer des coris et l'argent pour l'honorer tout en vantant sa majesté et son pouvoir. Et donc, pour donner de ce Hogon l'image d'un chef, j'ai choisi de montrer donc, non seulement au moment où il trône littéralement face aux villageois qui défilent devant lui pour l'honorer, donc en occupant une position d'honneur, mais j'ai choisi également une photographie prise de face, prise en entier, hein, avec la tête droite, le Hogon avec la tête droite, et le regard tourné vers l'objectif, en recadrant en plus la photo, parce que je sais ce que j'ai fait, de façon à ce que le Hogon soit au centre de la photographie. Or, dans tous les clichés, c'est un procédé finalement qu'on retrouve constamment, dans tous les clichés où le photographe cherche à mettre en valeur la majesté ou la puissance du Hogon, celui-ci est pris presque toujours en entier, de face, avec la tête droite et le regard tourné vers l'objectif, en étant placé en outre, au centre ou en surplomb. Et de tels procédés visent bien sûr à placer le Hogon dans une position où il domine par sa position et par le regard. En revanche, les Occidentaux qui veulent promouvoir l'image d'un Hogon empli de sagesse vont user de procédés quasiment inverses, puisque leur objectif, eux, c'est d'évoquer l'humilité, la sérénité, la connaissance et éventuellement l'ascétisme et le dénuement de ces présumés sages. Et on en a vu d'ailleurs déjà quelques exemples avec des Hogons présumés grands sages pris de trois quarts face, la tête penchée, les yeux clos ou le regard perdu dans le vide avec un plan rapproché qui va autoriser les bustes et les portraits et une prédilection aussi pour les vêtements troués ou les guenilles. Et si par malheur le Hogon s'obstine à porter ses beaux habits rouges vifs, celui qui veut le transformer en sage peut toujours, en sage ou en humble ermite, il peut toujours le faire grâce notamment au noir et blanc. Parce que c'est le procédé exactement utilisé par Basilio Bastazar dans un livre espagnol sur l'art d'Hogon paru en 1994. Il reproduit deux photographies du même Hogon, mais un peu après son intronisation, quelques années après son intronisation, c'est le Hogon de Nombori. Simplement, il les a pris en noir et blanc, si bien que l'attribut le plus flamboyant de son pouvoir devient totalement invisible à ce qu'il regarde, parce qu'il porte exactement le même bonnet rouge, le même pantalon et la même tunique rouge vif Il n'y a que c'est Bott qui l'a enlevé ici sur ce cliché. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? On voit pas du tout un chef, on voit un vieillard, un digne vieillard, un sage, assis sur un rocher, avec un plan relativement rapproché, pris presque de trois quarts face, avec un arrière-plan totalement neutre. Donc on peut du coup projeter l'image de la sagesse et non du pouvoir. Et c'est encore plus vrai dans la deuxième photo qu'il produit, en se rapprochant encore, on a l'image d'un sage, parce qu'on peut lire sur son visage, sa barbe blanche, ses rides, et d'ailleurs c'est une photo un peu floue, rajoute encore côté sage, un peu éthéré. Et ce cadrage ne doit évidemment rien au hasard, puisque dans le texte qui est en vis-à-vis, Basilio Baltazar fait du Ogon un espèce de grand mystique et de grand initié. Bref, le portrait qu'il en fait par écrit ressemble fort au portrait d'Ogotamili, tandis que l'image photographique qu'il en donne rappelle également l'image la plus connue d'Ogotamili, qui est l'icône du sage, du grand initié de Ogon aux yeux du grand public, l'ouvrage, le best-seller de Griol, Dieu d'eau. Et là, je ne peux pas m'empêcher de justement de présenter l'image du sage par excellence, qui est Dieu d'eau, qui est dans une position, qui favorise cette image, avec un cadrage resserré, encore une fois, des habits simples, une position qui évoque la sagesse à travers la tête baissée, les mains au-dessus de sa tête, les yeux clos pour cause puisqu'il est aveugle. Et cette image, elle est présente dès l'édition de 48, mais elle va se retrouver sur la couverture de toutes les éditions ultérieures, y compris les éditions américaines et anglaises, à l'exception, je crois, de l'édition de poche. Mais c'est vraiment l'icône. Je rappelle que Ogotamili est censé avoir initié Griol à la cosmogonie d'Ogon en lui révélant, au cours d'entretiens quotidiens, les mythes et le savoir ésotérique des Dogons. Et Griol lui-même, dans Dieu d'eau, met en scène cette prétendue initiation grâce à différents procédés littéraires, mais aussi grâce à plusieurs photographies, dont celle-ci, et une autre beaucoup moins connue. Que voici. C'est une photographie. Alors là, du coup, Ogotamili est présenté dans un plan plus large, à l'entrée de sa maison, deux trois quarts face, avec face à lui Solange de Ganet, qui est quasiment de dos, et à côté d'elle, l'interprète. Et c'est une image qui vise à mettre en scène cette soi-disant initiation des ethnologues par Ogotamili. Une soi-disant transmission de connaissances. Le problème, c'est que cette photo disparaît ensuite totalement de toutes les autres éditions. Pourquoi ? Alors, on peut dire qu'effectivement, la photo était de mauvaise qualité, on ne voit pas très bien Ogotamili, en plus, il paraît un peu misérable et voûté, certes, mais bon, c'est un constat qu'on pouvait faire dès 1948. Mon interprétation, c'est que ce cliché a disparu après la décolonisation, tout simplement parce que les éditeurs se sont rendus compte que cette photographie qui devait servir à accréditer cette idée de révélation ou d'initiation, en fait, elle rendait compte assez crûment du contexte colonial de l'enquête. Qu'est-ce qu'on voit sur cette photographie? On ne voit pas un maître d'Ogon dispensant un enseignement initiatique à un élève blanc, on voit plutôt un pauvre air pressé de questions par une ethnologue en position dominante perché sur un mortier retourné avec à côté un interprète qui est en fait un militaire, comme le prouve son casque qui est posé à côté. Bon, mais je referme la parenthèse d'Ogotamili, qui est la version du sage, enfin qui est la vision du sage, version Griol, et je reviens au bon qui est l'icône de la sagesse aux yeux des touristes. À la fin des années 90, c'est-à-dire au moment où le tourisme connaît un essor fulgurant dans la moitié sud du pays d'Ogon, les Dogons ont commencé à comprendre le bénéfice qu'ils pouvaient tirer de l'image du Ogon sur le plan touristique. À cette époque, les guides avaient déjà totalement adapté leur discours et leur circuit touristique aux demandes, aux attentes et aux stéréotypes des occidentaux, en leur renvoyant l'image d'une société de rond harmonieuse et mystérieuse, où tout est symbole, et où chaque vieillard et chaque dignitaire est un sage, ou un philosophe, ou un grand initié. Les guides Dogon, mais aussi les agences de voyage, ont donc commencé à proposer systématiquement des rencontres, voire des entretiens et des séances de photographie avec les Dogons faux ou vrais de tel ou tel village. C'était surtout vrai dans le sud du pays Dogon, parce que, en l'absence de masques en bois, le Dogon est devenu, dans cette région méridionale, la principale attraction touristique. Et là où le Dogon avait disparu, notamment dans les villages entièrement islamisés, des vieux ont commencé à jouer les Dogons pour satisfaire les touristes. C'est le cas à Ndé, qui a connu un essor au niveau touristique fulgurant, en se transformant en parc d'attractions, centré sur un faux Dogon, incarnant avec beaucoup de talent un sage, un ermite et un grand initié dans un décor exotique totalement factice. Dans ce Hogoland, même le campement a été rebaptisé le Hogon pour exploiter au maximum l'image de ce faux dignitaire. Et en quelques années, ce faux Hogon, qui est mort en novembre 2005, est devenu une célébrité internationale. Et cette photographie est présente dans tous les livres de voyage de l'époque et dans un grand nombre de sites internet consacrés au Hogon. Tapez Hogon de ND sur Google, vous verrez plein de... Alors, c'est évidemment sur ces photographies que je vais m'arrêter, car elles permettent de comprendre comment les Occidentaux représentent et se représentent la sagesse africaine, en gommant simultanément toute représentation du pouvoir. Et accessoirement, l'analyse de ces clichés permet de comprendre aussi pourquoi ce faux Ogon est devenu plus célèbre qu'un vrai. Parce qu'en jouant la comédie, le faux Ogon autorise finalement toutes les mises en scène. Des Dogons vis-à-vis des touristes occidentaux, mais aussi des touristes vis-à-vis des destinataires futurs de leurs photographies. Prenons par exemple ces photographies tirées d'un livre espagnol, ou plutôt catalan, publié en 2004 par l'un de ces nombreux illuminés qui pensent que les Dogons étaient visités par les extraterrestres, ce qui expliquerait que leur connaissance astronomique et leur mythe sur la descente de l'Arche Dogon. C'est la vieille théorie des anciens astronautes appliquée au pays Dogon, comme quoi les Dogons ont l'art de faire fantasmer les Occidentaux. Donc cet Espagnol se déplace en pays Dogon avec ses carnets de croquis tirés des livres de Griol, mais aussi des photographies de Sirius et autres étoiles, pour les soumettre à ce qu'il estime être des grands initiés Dogon, pour évidemment valider sa théorie. Et vers qui se tourne-t-il avec son guide? Et en particulier, il se tourne vers le faux Ogon de Ndé, car son guide sait très bien que c'est quelqu'un qui est d'une complaisance et d'une patience infinie avec les touristes. Et à travers ses photographies, il reproduit une double mise en scène. Il cherche en fait à présenter d'abord ce dignitaire comme un grand sage, un grand initié, puis, selon une construction classique, il se sert de son image pour accréditer ses propres recherches en se mettant dans la position de, du blanc initié par cette sommité spirituelle. Cela donne d'ailleurs dans cette deuxième photographie, cette image admirable, où chacun, sans être concerté, joue finalement un rôle de composition. L'Ogon jouant le rôle d'initiateur et l'Espagnol jouant le rôle d'initié. Ces deux photographies sont bien sûr à rapprocher des deux photographies de Cotemelli qu'on a vues précédemment, parce que finalement elles visent les mêmes objectifs en utilisant des techniques et des mises en scène similaires. Simplement, dans le cas de la première photographie, l'auteur a opté pour un gros plan resserré sur une partie du visage du faux Ogon, car c'est bien connu, la sagesse, à l'inverse du pouvoir, peut se lire sur les traits du visage, à travers les rides, à travers les yeux mi-clos, à travers la barbe grisonnante, voire même à travers les dents jaunies par le tabac. Alors que le pouvoir Ogon exige d'être représenté à travers l'ensemble de sa personne et de ses attributs de fonction. Et sur la photographie du bas, la posture est aussi une posture de sage, prise de trois quarts face, un peu plus rapproché, avec le regard qui n'est pas tourné vers l'objectif, mais vers le croquis. Alors, cela dit, pour les besoins de la mise en scène, il peut y avoir des gros plans, enfin des plans plus élargis du Hogon, mais ça, c'est justement parce que quand... là, en l'occurrence, c'est une mise en scène superbe. L'Espagnol a disséminé négligemment ses photographies au pied du Hogon, qui, à la demande, mime l'action meurtrière des nomos extraterrestres en mettant c'est là. On est en plein théâtre, mais des deux côtés. C'est ça qui est intéressant. Alors, avec le Hogon et l'AMD, je pourrais multiplier les exemples. Devinez qui va illustrer une partie sur la pensée d'Hogon dans un livre publié par le responsable d'une association de développement, et dans la partie écrite par un professeur de philosophie d'Hogon. C'est bien sûr ce faux Hogon, toujours avec le cadrage spécial sage. Devinez qui est associé à la connaissance et à l'interprétation des mythes d'Hogon dans un livre qui est illustré, un livre de voyage qui est illustré par des dessins et non plus par des photographies. C'est le fameux Hogon de ND, qui n'est pas pris de trois quarts face, mais là de profil, mais je cite, il me disait le regard perdu dans l'horizon. Et si on lit le texte qui suit, c'est très instructif, parce qu'on y apprend. On peut rendre visite au Hogon, et pour cause, il est là uniquement pour les touristes. Et on y apprend aussi que l'existence du Hogon est vouée, je cite, à la méditation et à l'interprétation des mythes. De chef imposant qui vous domine du regard, le Hogon est donc devenu, dans les représentations des Occidentaux, un mélange de Dalai Lama et de Gautama. Et je cite le Dalai Lama pas au hasard, parce que dans une planche photographique de photographie commerciale que j'ai capturée sur le net, qui représente les grands chefs spirituels du monde, vous avez littéralement le Hogon de MD, là, toutes ces photos-là, qui est représenté à côté du Dalai Lama. C'est même pas les vrais Hogons de Haru ou de Nambori qui est représenté, c'est le faux Hogon qui est surreprésenté, d'ailleurs, parce qu'il y a 7 photos du faux Hogon de MD à côté des grands leaders spirituels du monde. Très rapidement, voilà, donc, c'est des différentes photos prises sur le net, vous avez toujours le même cadrage, soit un cadrage de profil, de trois quarts face, soit quand il est debout, c'est l'ermite solitaire qui contemple, soit alors quand il est de face, c'est pour les besoins de la mise en scène encore, quand les touristes se font photographier à côté du Hogon, c'est quand même pas rien d'être photographié à côté de cette sommité spirituelle. Ou alors quand il est de face, aussi quand on veut restituer les décors qui ont été construits uniquement pour le faux Hogon de Henné, parce qu'on voit très bien que c'est des habitations qui ne sont plus habitées, qui sont en ruine. Simplement, on a là, dans le premier décor, en fait, il en a deux. Il va de l'un à l'autre, comme les théâtres, on peut changer les décors. Et donc, le premier décor évoque le guide spirituel avec un faux hôtel qui est encore plus impressionnant qu'en vrai, puisqu'on a dessiné un visage par-dessus, une estrade flambant de neuf derrière lui. Ça, c'est pour le guide spirituel. Et pour la photo du bas, c'est des habitations troglodytes en ruine. Et c'est le côté grand initié, plutôt secret, grand initié, avec des amas hétéroclites d'objets qu'on a déposés devant pour les touristes. Des objets qui n'ont rien à voir avec... Je termine là-dessus. C'est un peu la même structure que l'exposé précédent. Qu'en est-il des images de Hogon prises et publiées par les Hogons eux-mêmes? Et là, ça va être très rapide, parce qu'il y en a très peu. Tout dépend si la publication est destinée aux touristes ou aux autres Hogons. Je vais prendre un exemple frappant avec deux livres écrits par Issa Guindo, qui est originaire de ND et qui est un des grands promoteurs du développement touristique de ce village. En 2000, il publie à Bamako un petit livre intitulé, chez un éditeur malien, un petit livre intitulé « Nous, les Hogons ». Et sur les 34 photographies du livre, il n'y en a aucune du faux Hogon, alors que la majorité de ces photos concernent justement le village de ND, où Issa Guindo possède un campement hôtel. L'auteur a donc refusé de publier la photographie de son faux Hogon dans une publication qu'il destine en partie au moins aux autres intellectuels d'Hogon. En effet, il cherche à apparaître à leurs yeux comme un grand spécialiste des traditions d'Hogon afin de légitimer sa position de promoteur du patrimoine d'Hogon. Aucune photographie du faux Hogon donc, mais trois photographies des décors factices créés pour le Homo. Sauf que le Homo donc est hors champ dans toutes ces photos. On aperçoit le faux hôtel, des objets hétéroclites qui n'ont absolument rien à voir avec le Hogon, un masque n'a rien à voir avec le Hogon, la lance non plus, etc. Tout ça, ce sont des décors créés. Alors, pourquoi publier des décors factices et pas le Hogon, un Hogon factif? Parce qu'il fait passer ses aménagements aux yeux des autres intellectuels d'Hogon pour des restaurations visant à sauvegarder et à promouvoir le patrimoine d'Hogon. Autrement dit, il ne leur parle absolument pas d'authenticité, contrairement aux touristes, il leur parle préservation du patrimoine. Issagino a publié un autre livre à destination des touristes, exclusivement des touristes, puisque c'est un livre d'ailleurs en néerlandais, donc uniquement destiné aux touristes néerlandais, qui est paru en 2005, peu après sa mort. Devinez qui réapparaît dans ce livre ? Le faux Hogon de ND, toujours avec un cadrage spécial sage, un cadrage très resserré, où les rides de son visage, sa barbe, sans aucun attribut, aucun élément de pouvoir n'apparaît sur cette photo. Les yeux dans le vague, encore une fois. Et la photographie n'est pas de l'auteur, je le précise, mais visiblement, il se l'est réapproprié pour donner à voir ce que les Occidentaux ont envie de voir, à savoir un grand sage. Donc ça va être ma conclusion très rapide. Ce dernier exemple montre que les Dogons savent jouer avec leur image sans jamais être dupes. Ils cherchent simplement à satisfaire les Occidentaux en leur présentant un Dogon qui ressemble davantage à un sage qu'à un chef. Ou encore en décernant le titre totalement inventé de sage Dogon à des personnalités occidentales visitant le pays Dogon. À l'image de Chirac, c'est sage Dogon à titre honorifique. Lors de sa visite à Sanger, on en a parlé à Berder d'ailleurs. Et c'est peut-être ça, finalement, la sagesse légendaire des Hogon, parvenir à s'adapter à l'image que l'autre se fout.